qui nous vient de Hollande, du cannabis qui nous vient de Bedrocan. On en a déjà parlé ici à plusieurs reprises. Donc on va voir un peu ce que c'est que ce Bedrocan et ce cannabis floss. Et là, Jeff nous expliquera pourquoi il a pu et pourquoi et comment il a pu avoir ce cannabis en Hollande à partir d'une ordonnance écrite par une médecin en France, à Strasbourg plus précisément. Voilà, on verra un peu tout ça. Il nous expliquera également de quoi il souffre. Voilà, un peu, c'est quoi sa vie, tout ça, machin. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Si vous étiez à l'appel du 18 juin, vous avez vu notre ami qui, à un moment, était juste à ma gauche, à mes côtés, qui a pu voilà, nous montrer un peu ce que c'est que le Bedrocan. Pas mal de gens qui nous écoutent régulièrement savent déjà ce que c'est, d'autres un peu moins. Il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, d'ailleurs, et qui pourraient être intéressées par éventuellement pour en avoir, parce que peut-être qu'ils ont des souffrances qui n'arrivent pas à réduire, à diminuer, et ils aimeraient bien avoir des infos. Voilà, donc sinon, dans notre petite revue de presse d'aujourd'hui, on va parler un peu de Michel Henry, qui nous publie un article bien sympathique, intitulé « Légalisation du cannabis, la France doit suivre la piste de l'Oregon ». On ira peut-être aussi faire un tour à Bobigny, où on est en train d'expérimenter des alternatives à la prison pour des délinquants lourdement toxicomanes qui ont pu commettre des délits. Voilà. On ira peut-être aussi faire un tour à Draguignan avec des vêtements, avec des feuilles de cannabis qui ne sont pas du goût de la justice et de la police. peut-être un petit tour aussi à Chalon-sur-Saône où la maréchaussée a débarqué dans une caserne. On reparlera peut-être un peu du Sativex qui, on en reparlera d'ailleurs, oui, parce que c'est un peu dans le thème, qui revient dans l'actualité. Il y a un article également dans Libé ou dans Le Monde, voilà, un article pas nouveau, hein, qui reprend un peu les soucis avec le laboratoire pour fixer le prix du Sativex. Voilà. Et au Canada, une petite étude qui montrerait que, certes, le cannabis ferait prendre du poids à ceux qui en consomment, sauf chez les hommes qui fument également du tabac. Voilà, on verra un peu tout ça. D'autre part, je vais quand même pas oublier de vous le dire, c'est l'état du Minnesota aux États-Unis qui devient, je sais même plus combien dième état, à légaliser la partie thérapeutique du cannabis. Dernièrement, c'était la Louisiane aussi pour le thérapeutique. Il y a eu le Texas il y a pas très longtemps. Même au Texas, ils sont encore plus en avance sur les droits du cannabis, en tout cas thérapeutique, que chez nous. Mais bon, c'est quand même largement tempéré par d'autres problèmes, notamment une peine de mort et un couloir de la mort qui est assez important au Texas. Mais bon, c'est pas le seul état. Voilà. Donc, avant de parler de tout ça, on va d'abord écouter un peu de musique et puis on revient tout de suite après. À tout de suite.
Et que des vieux trucs ce soir, mais ouais. Que des trucs super bien, précurseurs. On commence par un morceau de The Fall. Ça date de 1988. Rock the record.
oui. Ouh. Eh bien, retour au plateau, retour à l'actu. Alors, on va parler un peu de la revue de presse et puis après, on va discuter un peu avec notre ami Jeff. Alors, juste avant de discuter un peu avec lui, on va commencer avec cet article de Michel Henry dans Libération, le 1er juillet dernier. Légalisation du cannabis, la France doit suivre la piste de l'Oregon. Voilà, un article, encore une fois, très intéressant à mettre à l'actif de Michel Henry. Qui, voilà, s'il n'était pas là, ça manquerait, quoi. Alors donc, je vais vous lire l'article à peu près dans son intégralité. Ah oui, j'ai oublié, je vais aussi vous parler d'un autre article également très intéressant, un article du Canard Enchaîné, qui n'est pas dans ma revue de presse là maintenant, mais que je vais sortir de ma poche. Voilà, je ne vais pas l'oublier. Donc voilà, Michel Henry tout de suite, qui nous dit que voilà, ben alors un exemple à suivre pour la France, point d'interrogation à propos de la légalisation en Oregon. Donc depuis mercredi, nous dit-il, l'usage récréatif du cannabis est donc légal en Oregon, qui est un état du nord-ouest des États-Unis, les électeurs ayant approuvé par référendum en novembre dernier. Si on a plus de 21 ans, donc, on peut en consommer dans un lieu privé, en détenir 8 onces, c'est-à-dire 227 grammes, ce qui, honnêtement, n'est pas rien, quoi. Et 4 plans chez soi aussi. Où on peut également se promener en public et en avoir dans sa poche jusqu'à 28 grammes. Voilà. Alors, pour l'instant, on ne peut pas encore en acheter en Oregon. Hein. Les premiers établissements de vente pour l'usage récréatif devraient voir le jour fin 2016. Donc, voilà, plutôt l'année prochaine. Mais il y en a déjà 300 qui existent pour la vente au niveau thérapeutique. 300 établissements déjà en Oregon qui peuvent délivrer du cannabis sous ordonnance thérapeutique. Ça fait rêver, hein. Toi qui es parti à l'autre bout de l'Europe, du Nord, là-bas.
C'est clair.
Ça fait rêver. Chez nous, nous dit M. Henry, chez nous, bah, rien de tout ça. Hein. On peut toujours prendre, en théorie, un an de prison pour usage des stupes. De stup, délit pour lequel plus de 150 000 personnes sont arrêtées chaque année. On s'en plaignait sous Sarkozy, mais ça augmente sous Hollande et Valls, j'ai envie de rajouter. Une politique liberticide inique, coûteuse et inefficace. La répression ne sert à rien, mais combien de temps la France pourra-t-elle continuer la politique de l'autruche? Si les États-Unis, moteur de la guerre à la drogue depuis 45 ans, changent de paradigme, la prohibition qui ne sert que les dealers ne tiendra plus lieu de religion mondiale. Et oui, avant d'affronter cette réalité, Paris a encore un petit sursis, car les expérimentations ne concernent que 4 États, l'Oregon, le Colorado, l'État de Washington et l'Alaska. Mais l'an prochain sonne comme une étape cruciale. Les partisans de la légalisation espèrent que, par référendum, elle sera approuvée dans de nouveaux États, faisant ensuite basculer le pays tout entier. Le chat est sorti du sac, nous dit Brian Vicente, l'avocat de Denver à l'origine de la légalisation au Colorado. On est allé assez loin pour ne plus revenir en arrière. 23 États ont légalisé le thérapeutique. En 2016, 5 ou 6 nouveaux États vont légaliser le récréatif. 5 ou 6 États, moi j'ai lu qu'il y en avait au moins une vingtaine qui s'apprêtent à changer leur législation. Donc 5 ou 6 nouveaux États, hypothèse très basse, hein. Donc 5 ou 6 nouveaux États vont légaliser le récréatif, dont la Californie, le Massachusetts, le Nevada. Et je ne vois pas le prochain président tourner le dos à ses votes. Pourtant, c'est possible, le produit reste illégal au niveau fédéral. L'administration Obama tolère les États légalisateurs, mais tout nouvel élu à la présidentielle de 2016 pourra interdire les systèmes légaux de vente. Pas l'usage, prérogative des États. Cela dit, si la Californie, ses 39 millions d'habitants légalisent, il sera difficile de revenir en arrière, mais les opposants, comme Kevin Sabet, qui dirige Smart Approaches to Marijuana, espèrent que tout n'est pas joué. Donc voilà, cette Smart Approaches to Marijuana, c'est plutôt une structure anti-légalisation. Quoique, quand on s'intéresse un peu à leurs propos, on aimerait bien avoir des anti-légalisations comme ça en France, mais bon... Il dit quand même, il dit des choses de bon sens. Hein. Il dit quand les Oregonais, pardon, se rendront compte que la base de tout ceci, c'est la Big Marijuana, en référence au Big Tobacco. Donc la Big Marijuana qui veut faire de l'argent et qu'ils verront les enfants empoisonnés par des oursons en guimauve et des cookies farcis au THC, ils émettront quelques réserves. Et il a raison de dire ça, hein, parce que ça fait partie un peu des dérives, hein, constatées déjà dans le Colorado. Des parents qui ont laissé traîner des confiseries dans la cuisine et des gâteaux, et les gamins qui en ont mangé, et ce qui est normal, et ils sont intoxiqués, et on ne doit pas laisser traîner ça, quoi. Voilà. En 2014, le marché américain a pesé, selon le cabinet dit ArcView Group, lié à l'industrie du cannabis, 2 milliards 700 millions de dollars de chiffre d'affaires récréatif plus thérapeutique, hein. Soit une croissance de 75% par rapport à 2013. Cette ruée vers l'or produit des taxes qui, au Colorado, servent aux écoles. La France pourrait y trouver de nouvelles ressources. Chiche, point d'interrogation. Et alors, avant de discuter avec toi, je vais donc vous narrer un peu ce petit article qu'un ami bien intentionné m'a confié hier après-midi, un article qui est paru dans le Canard Enchaîné de cette semaine, donc le Canard Enchaîné de mercredi dernier, me semble-t-il. Un article vraiment exemplaire qui fait un peu résonance et à tout ce qu'on vous explique depuis plusieurs années, que quand même globalement cette répression du cannabis, elle s'abat surtout sur les jeunes des quartiers populaires. On a parlé de la campagne lancée par le CRAN et l'AFR, guerre raciale, guerre aux drogues, guerre raciale, et on pourrait même rajouter guerre aux drogues, guerre raciale et guerre sociale. Et en tout cas, dans cet article, c'est bien démontré. Alors voilà, l'article est très intéressant parce qu'en plus, il commence ça se passe dans le tribunal, il y a un bordel pas possible. Il manque de monde, il manque de greffiers, voilà, tout le monde s'engueule, bref. En tout cas, voilà, l'article commence comme ceci. Voilà. Et les trois du box, 20 ans à peine, qui attendent, se tassent de plus en plus. Enfin, ça reprend. Voilà. Les trois ont été contrôlés, boulevard Magenta. Ils livraient du shit à des clients qui avaient passé commande par téléphone. Ça se passe à Paris, hein. Ça pourrait aussi se passer à Lyon, dans une autre grande ville, hein. Alors, ils ont nié, puis avoué, au vu des 22 sachets d'herbe trouvés dans la voiture et de la retranscription de leur conversation surprise en garde à vue. On va être dans la merde s'ils tombent sur la liste. Un des avocats balait la salle du doigt. Regardez la sœur de mon client, elle est bac plus 5. Elle a intégré une grande école. Elle a tenté de recadrer son frère, mais sans faille, mais sans famille. Mais sa famille vit en Normandie. Il a débarqué à Paris sans un rond et vit avec son grand frère de 30 ans, qui ne s'occupe pas de lui. Il est perdu et il blâme. Pourquoi la comparution immédiate? Pourquoi ne pas avoir remonté la filière? Pourquoi ne pas avoir enquêté sur les donneurs d'ordre? C'était facile, il suffisait d'explorer les appels téléphoniques. Le deuxième avocat enquille sur la lutte des classes. Ah ah, c'est tellement facile et confortable pour ces consommateurs des beaux quartiers. Les paumés livrent à domicile tous ces Augustins, Valentines, ces Alice ou ces Antoine. Tous ces jeunes avec leur parfaite bonne conscience, à qui le seul acte citoyen demandé a été de reconnaître leur livreur sur la photo et de les balancer. Le troisième renchérit. La mère de mon client est gardienne d'un groupe scolaire. Elle a été perquisitionnée à l'école. Vous imaginez? Mais eux, les petits clients des bonnes écoles, il ne leur arrive rien. C'est jamais eux qui prennent. Ils sont au-dessus de ça, tranquilles, pendant que nos clients, à 18 ans, sont à Fleury-Mérogis depuis 3 semaines. Effondrés, les trois, n'osant pas regarder leur mère, écrasent des larmes. Prison pour tout le monde. Les peines vont de 1 an à 18 mois ferme. Voilà, voilà comment ça se passe en France. Donc, Michel Henry, oui, merci de le rappeler. La France doit suivre la piste de l'Oregon, et pas uniquement pour des questions de plaisir de fumer. Au cirque, c'est ce qu'on défend, mais on défend pas que ça, en tout cas. Et ce qu'on demande, c'est justement d'emblée, immédiatement, une dépénalisation immédiate de l'usage du cannabis et très rapidement la mise en place d'une légalisation un peu à l'uruguayenne, pour justement qu'on arrête d'arrêter des petits jeunes qui vont fournir des riches, qui en plus ne sont jamais inquiétés. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut légaliser et qu'il faut absolument mettre un terme à cette guerre à la drogue. Voilà, allez, un peu de musique et tout de suite, après cette petite coupure musicale, on discute avec notre ami Jeff, qui a pu avoir du Bedrocan, yes, en Hollande. À
et
tout
on,
de suite.
On continue à remonter le temps avec le Gun Club, ça date de 1980, extrait de l'album Fire of Love, le premier morceau de cet album qui s'appelle Sex Beat. Mmh. À l'écoute de Radio Canus 102.2, Cannabis Circus.
Cannabis Circus, l'émission du Cirque Lion, le Cirque Lion, voilà, que vous pourrez retrouver au festival Zion Garden à Bagnols-sur-Cèze du 20 au 25 juillet prochain. Zion Garden, festival concert reggae pendant une semaine. Et le cirque tiendra un stand dans le village associatif toute la semaine. Et normalement, vous pourrez aussi, je pense que ça devrait être bon, retrouver le Cirque Lion au festival Gully Sound dans le Bugey, au-dessus d'Ambérieu-en-Bugey, le 18 juillet prochain, c'est ça hein.
Ouais.
Voilà, on vous tiendra informé. Voilà. Bon. Alors maintenant, on va discuter avec notre invité sans plus tarder, donc notre ami Jeff, qui est là avec nous ce soir. Donc voilà, explique-nous un peu donc, qui tu es, quel âge as-tu?
Donc je m'appelle Jeff, j'ai 43 ans. Un petit coucou à Bénin d'abord.
Mais bien sûr, voilà, tu as le droit.
Bisous.
J'espère qu'il nous écoute.
À ma fille aussi, Kate.
Donc je vois que t'es pas venu. Je vois que t'es pas venu les mains vides.
Ouais, ouais.
J'ai vu que t'avais une ordonnance, que t'avais une facture de la pharmacie de Masbraak.
Masbraak.
Bon, en Hollande. Et donc voilà. T'avais un boulot, il me semble, il y a pas très longtemps.
Donc moi j'étais routier.
Voilà, chauffeur routier, ouais.
Et en 2001, je suis tombé malade.
Marc, qu'est-ce qui t'est arrivé?
Une névralgie. Donc plus de batterie, quoi, je dirais.
Ouais, ouais. Ah,
plus de batterie, plus mal aux muscles.
Alors ça s'est manifesté comme ça?
Ouais.
Mal aux muscles.
Du jour au lendemain, impossible de monter l'escalier, trop épuisé. Quoi.
Du jour au lendemain?
Du jour au lendemain. Je me suis levé.
D'accord, donc plus de force dans les jambes, plus de force dans les bras.
Voilà.
D'accord. Donc
ta sac à café trop lourde, quoi. Trop lourde à
porter. Ouais.
Voilà, des charges électriques, douleur testicule droit. Voilà, comme si on mettait un bon coup de pied, quoi.
Dans les testicules.
Voilà, ouais.
Ah ouais.
Voilà, 14 ans comme ça, et là.
Alors, donc voilà, ça a commencé en 2001, tu disais. Hein. Alors, qu'est-ce que t'as fait tout de suite? T'es allé voir ton médecin, j'imagine.
Voilà, je suis allé voir mon médecin.
Et il t'a diagnostiqué quelque chose ou il savait pas au début?
Non, il savait pas. Ils ont mis à peu près 8 mois à trouver.
Alors ils t'ont fait faire quoi? Des scanners, des IRM,
voilà,
des trucs comme ça?
Voilà, tout ça. Et
Alors j'imagine que tu t'es mis en arrêt maladie, que t'as pas pu continuer à travailler.
Non, je pouvais pas. Même me lever, c'était... voilà, dès que je me levais, quoi, j'avais c'est comme si j'avais eu 17 heures de boulot dans la tête, quoi. Voilà, ouais. Je dormais pas, voilà, épuisement, et on rattrape jamais le retard du sommeil. Ouais.
Et donc tu dis c'était en 2001, et avant, aucun signe, même ouais. Une petite alerte deux ans ouais. Avant, rien du tout. Rien. D'accord, donc ça c'était en 2001, aujourd'hui on est en 2015, et donc entre 2001 et...
Et 2014... Avril,
putain, 13 ans, quoi.
Voilà, 13-14 ans.
Et donc pendant 13-14 ans, t'es resté chez toi ?
C'était l'enfer et je sortais pas. Je sortais pas parce que j'étais trop nerveux, trop instable.
Et t'avais des douleurs en plus.
Voilà, douleurs, donc ça montait à la tête. C'est limite, on devient barjou.
D'accord. Et donc, en attendant d'avoir du bedrocan, t'avais quand même des traitements, non ?
J'avais antidépresseurs.
Seulement ?
Voilà.
Mais t'avais pas des antidouleurs ?
Ça faisait rien.
Ah oui ? Mais il t'avait donné quand même quelque chose ?
Ouais, morphine, j'ai eu kétamine.
De la kétamine ?
De la kétamine, une journée pour voir sous perf,
ouais.
Pour voir mon niveau de douleur. Quoi.
Et rien.
Il pouvait pas m'en mettre plus, et je lui disais que je sentais la douleur au fond du couloir, quoi. Je sentais que j'avais mal, mais au niveau kétamine, il pouvait pas me mettre une dose supplémentaire.
Ouais.
Pour moi, je suis arrivé à 10 en douleur. 10. Mmh. Voilà, faut gérer, quoi.
D'accord. Et du coup, qu'est-ce que donc là, c'était donc entre 2001 et 2014, tout ça. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé alors ?
Donc avant, je consommais du cannabis.
Avant, attends, on a un problème de micro. Vas-y. Non.
Non.
C'est bon. Ouais. Vas-y. Ouais. Là, c'est bon, 30 ans.
Je veux dire, avant, j'étais routier, je consommais du cannabis. Je veux dire, c'était pas interdit. C'est-à-dire, je travaillais, ça m'empêchait pas de conduire, comme il y en a qui pensent. Donc, je parle pour moi, toute personne est différente. Hein. Donc, moi, c'est pas un souci au volant. Et donc, je me suis remis à fumer. Voilà, et j'ai vu que ça me calmait. Donc, fallait vraiment que je trouve de l'herbe, pas du tamien, comme on trouve en barrette, quoi. Voilà, mais c'était pas ça encore. C'était pas ça, je me sentais gênante. Voilà, Et là, après bedrocan, quoi.
Alors oui, alors juste pour voilà pour insister un peu. Donc, t'as essayé. Donc on t'avait filé de la morphine, de la kétamine. Voilà. Tu disais que tu connaissais déjà le cannabis. Du coup, t'as voulu en reconsommer comme ça.
Voilà,
et tu t'es tout de suite rendu compte que ça avait quand même un petit truc, quoi.
Ah ouais.
Ça amenait un truc positif.
Ça me calmait, ouais. Donc, alors,
surtout l'herbe. Hein.
Que l'herbe.
La résine de cannabis, non.
Non, c'est plus excitant.
Et ça te soulageait pas.
Pareil, non, okay. C'est pas pareil.
Donc déjà, là, en consommant un peu d'herbe psychotrope, hein, en fait, tu t'es aperçu que ça avait amené un côté bénéfique.
Voilà.
Mais toi, c'était pas forcément le truc psychotrope qui t'intéressait, finalement.
Ah non, moi, je voulais soulager ma douleur.
Ouais.
C'est comme si je te mettais un coup de pied dans les couilles, excuse-moi.
Ouais.
Mais voilà, imagine la douleur, quoi.
Ouais.
Imagine.
Donc, déjà premier constat avec l'herbe, et donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé alors ?
Donc je regardais par hasard la chaîne parlementaire,
ouais.
Et j'ai trouvé un médecin sur Strasbourg, c'est Dr Zorn, qui prescrit du bedrocan à des personnes, c'est un médecin généraliste, et elle prescrit du bedrocan à des personnes qui ont le sida, ou des névralgies, ou le cancer, ou il y a pas mal de maladies. Et donc j'ai pris contact avec elle, je suis allé la voir.
Facilement ?
Non, j'en ai chié.
C'est-à-dire ?
Voilà, les douleurs, quoi.
Ouais, non, mais je veux dire...
J'y suis allé en train et...
Pour la contacter et prendre rendez-vous facile.
Nickel, super sympa.
C'est quelqu'un d'accessible.
Merveilleuse.
Elle t'a fait une ordonnance. Enfin, du jeu, peut-être discuter, tu lui as expliqué
un peu. Voilà, j'ai
discuté,
moi j'ai un dossier, j'ai une expertise médicale.
Oui, voilà, tu n'es pas allé les mains vides, en fait.
Tu me vois, ça se voit pas, quoi.
Oui. Je suis, et t'as maintenant,
voilà,
t'as l'air bien.
Ah ouais, là, je suis bien, c'est affolant, quoi. Donc ça a pris 2 mois pour qu'elle m'envoie l'ordonnance, avec 90 grammes de bedrocan pour 6 mois, quoi. Voilà. Donc le 15 avril, je suis parti en Hollande, donc je suis parti en voiture.
Le 15 avril 2014.
Voilà. Ouais. La première fois, je suis parti en Hollande en voiture parce que je suis tout seul, quoi, donc faut que je me débrouille. Donc et que j'assume au volant. Et donc je suis allé à la pharmacie à Maasbracht.
En Hollande,
voilà, 7h30 de route.
Avec des douleurs pas possibles, ouais, en plus, t'as réussi à conduire et tout.
Bah, j'ai fait, à l'aller, j'ai fait un covoiturage, toi. Ouais, j'ai pas fumé. Ouais. Toi, je me suis dit, je respecte les gens, ils savent pas. Mmh. Voilà, il y avait une maman, un gamin et un mec, voilà. Donc j'ai respecté, quand j'y arrivais, voilà, je regrettais, quoi. Voilà, les douleurs qui m'ont pris, voilà, j'avais hâte de fumer, quoi. J'avais hâte. Donc, je suis rentré à ma pharmacie et.
Avec l'ordonnance.
Avec l'ordonnance, pièce d'identité, voilà, et contrôle. Ah oui. Faut prévenir 2 jours à l'avance.
D'accord.
Voilà, par email. Et j'ai eu mon produit et en sortant, j'en ai fumé un et 5 minutes. 5 minutes et je suis redevenu normal, comme toi, quoi.
Ouais. Voilà. L'homme que t'étais avant 2001, quoi.
Avant, c'était l'enfer, quoi.
Ouais.
Donc, vive Bédrocan, vive la France.
Alors, ce sur quoi je voudrais insister, et ça peut-être surprendre nos auditeurs et auditrices, c'est qu'en fait, alors donc t'étais pas venu les mains vides, t'es venu avec l'ordonnance du médecin, plus une petite explication de comment il faudrait l'utiliser sans en fumer. Bon, après, les médecins.
Ouais, ça va plus vite en fumant.
Fais ce que tu veux, ouais.
Voilà, ça va plus vite. Ça reste un peu sur l'estomac en mangeant.
Les factures de la pharmacie, une prescription, voilà, Bédrocan. 3 grammes par jour pendant 30 jours.
Voilà, donc là, c'est ce qu'elle m'a prescrit, et là, je fume 0,70.
Tu vois. Par jour, ouais. 0,70
Ouais, donc, avant, c'est 3 grammes.
Donc, tu consommes moins que la posologie, en fait.
Voilà, excellent.
Ouais. Alors, donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, le Bédrocan, comme tu dis, ou Bédrocan, bref, peu importe, c'est un petit flacon qui est jaune et blanc. Et donc, quand vous l'ouvrez, vous avez à l'intérieur des fleurs séchées de chanvre.
Voilà. Hein, du cannabis.
Tout simplement.
De la bœuf.
Qui sont, voilà. De la fleur séchée
de. La pharmacie, non, non.
Je trouve que ça sent bon.
Ouais, ça sent bon. Ouais.
Et alors, donc, c'est une variété de cannabis, en fait, qui contient très peu de THC.
Ouais. Il n'est pas du tout enivrant.
Voilà, il n'est pas psychotrope, en fait.
Voilà, ça n'a rien à voir avec l'herbe que je fumais, l'herbe de la rue, quoi.
Ouais.
Ah ouais, hallucinant.
Donc, il n'y a pas de THC, par contre, il y a plus de cannabidiol.
Ouais, je suis positif, je pense.
Au cannabidiol, au THC,
au contrôle police.
Je pense pas.
Ouais,
c'est pas sûr.
Ouais, c'est pas sûr. On verra bien.
C'est pas sûr. Enfin voilà. Donc, ouais. En fait, toi, ta recherche, encore une fois, j'insiste un peu. Hein, c'est pas de fumer du cannabis pour planer, quoi.
Non. Je revis là. Ça fait 4 mois. Ouais. Je revis. Voilà. J'ai envie de bosser, quoi. Et ouais. J'attends. J'attends parce que voilà, c'est que 4 mois. Ça veut rien dire. Mm-hmm. Voilà, mais j'abuse pas et ah ouais, c'est ouais. Voilà, faut légaliser en France. Il y a pas, il y en a qui souffrent.
Ouais.
Moi, j'ai écrit à Monsieur Valls, ouais. Il s'en fout.
Et c'est possible.
Ouais, Marisol aussi, quoi. C'est aberrant, c'est hallucinant. Ouais. Ils nous écoutent quand il faut voter, quoi.
Et encore, ouais. Ils nous écoutent pas longtemps, j'ai l'impression.
Ouais.
Mais du coup, oui, tu me disais, parce qu'on s'est vu samedi, on avait une réunion du cirque, et tu me disais que samedi, enfin, on s'est vu en début d'après-midi, et tu me disais, ouais, ce matin, je me suis levé, et j'en ai pas pris, et puis à un moment, j'avais super mal au pied.
Voilà.
Et...
J'ai essayé, même si j'avais eu. Je la sens des fois. Je la sens.
La névralgie, tu veux dire?
Ouais, testicule, ouais. Au-dessus du testicule droit, des fois, je le sens.
Ouais.
Mais je suis tellement habitué à 10 sur 10 en douleur, je veux dire, c'est pas. Voilà, ça, c'est pas gênant. Et j'ai essayé en diminuant, même si je la sentais à pas fumer, juste avant de me coucher, le lendemain matin, je me suis réveillé comme si on t'avait jeté un parpaing sur le pied.
Ouais.
Tu vois ? Voilà, donc des brûlures, là, une crampe. Bon, j'en ai fumé un, ça a pris 3 minutes.
Ouais.
Et bingo. Bingo. Ouais, c'est cool.
Et alors, ta névralgie, là, tu me disais, c'est le nom enfin complet.
Ils disent. Ouais. Génitaux abdominaux crural, donc voilà, partie génitale, abdomen,
ouais.
Genre quand tu manges, oui. Moi je mangeais une fois par jour,
oui.
Tu vois, c'est tout, donc j'ai maigri, voilà, là je reprends, et crural, les jambes, quoi. Moi je fais 67 kilos, donc je me portais, quoi. Je supportais mon poids, quoi. Voilà, donc ouais, maintenant je vais me battre pour voilà, qui me rembourse déjà. Moi, je suis 100% sur ma maladie, quoi. Donc, je trouvais un... Parce que les médecins en France, ils ont peur, mais c'est affolant. C'est affolant.
Oui, parce que, en fait, du coup, ben, le médecin t'a fait cette ordonnance, t'es allé acheter ce médicament à la pharmacie. Mmh. Et bien sûr, c'est pas remboursé par la Sécu. Voilà. Et en fait, ça t'a coûté de ta poche combien ?
Ben là, j'en suis à, pour 90G, 758 euros. Voilà. Ouais. Alors que je touche 890 euros par mois en invalidité, quoi. Donc j'ai un crédit, quoi. Heureusement. Merci, Rolanding, je sais plus quoi, là. Ouais, ouais. Ouais, heureusement, autrement, je pourrais pas, quoi. Voilà. Je fais comment? Mais je vais me battre qu'il me rembourse, quoi. C'est pas normal. Voilà. Moi, j'ai trouvé le médicament. Les médecins, non, c'est, voilà, c'est des, je dirais pas c'est quoi, quoi. Mmh.
Et en Hollande, en allant acheter du le cannabis Bedrocan, là, quand t'es allé à la pharmacie, est-ce que t'as par exemple t'as croisé des d'autres citoyens européens qui venaient de pays où ils pouvaient pas en
non.
avoir ?
Non.
Des Français.
Je sais qu'il y a, c'est Bertrand Rimbaud.
Bertrand Rimbaud, oui.
Voilà, qui, il prend le même
président du FCM, ouais.
Il prend exactement le même que moi et c'est lui que j'ai entendu sur LCP avec Dr. Zorn.
Ouais, ouais.
Et il donnait des douleurs que j'avais, et après il disait que il était soulagé, donc j'ai voulu essayer, quoi. Au début, je savais pas que ça allait me soulager. Donc c'était vraiment, quand je suis allé en Hollande, et c'était vraiment le hasard complet, quoi. Et ça a marché, quoi.
Bah ouais, c'est assez incroyable.
Ouais, 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 c'est phénoménal, quoi. Ouais. C'est phénoménal, quoi. Je reviens pas encore, quoi. 4 mois, je reviens pas. Ah ouais, je te jure, c'est... Waouh.
Ouais.
Excellent.
Et en fait, est-ce qu'on t'a proposé différents cannabis ?
Non, moi je vais vous laisser celui-là parce qu'il est.
Il y a du CBD et que c'était
voilà,
plutôt
c'était,
ça.
Voilà, je crois que 22% ou je sais pas quoi. Et moi c'est ce qu'il me fallait.
D'accord. Et est-ce que t'as pu en discuter avec le docteur Zorn ou par exemple, ou même pas, elle t'a dit c'est ce cannabis-là qu'il vous faut ?
Non, c'est plutôt moi qui lui dis voilà, moi je veux celui-là.
Ah oui, d'accord. Tu savais déjà.
Moi je fume, voilà, moi je veux celui-là. Pour moi, il me convient. Quoi.
Alors, tu l'avais même pas essayé.
Alors, je l'avais pas essayé. Quoi.
T'es allé au bluff ou
ah ouais, non.
En fonction de ce que t'avais entendu sur la chaîne parlementaire.
Rimbaud, là.
Bertrand Rimbaud, ouais.
Voilà. Il avait des douleurs que j'avais.
Ah oui, donc, oui, je comprends.
Quand tu te lèves, t'as l'impression qu'on t'a roulé dessus.
Ouais.
Toi, ou les abdos, toi. J'ai pas fait 14 ans sans sport. Tu regardes, j'ai encore des abdos. Hallucinant. Je les faisais tout seul, des fois, toi. Je me levais. C'est comme si je sortais la salle de sport. Quoi. Voilà, les muscles qui travaillaient, mon corps il luttait. Voilà. Voilà.
Alors, juste, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se disent, mais de quoi qu'ils nous parlent, le cannabidiol, machin. Alors, le cannabidiol, c'est un des 111 cannabinoïdes qu'il y a dans le cannabis. Parce qu'il y a 100, on a découvert 111 cannabinoïdes. Et sur les 111, 7 ont été découverts il y a un mois. Donc, ce qui fait dire à un certain nombre de médecins ou de chercheurs que voilà, il y a quand même un avenir assez important qu'on peut envisager au niveau thérapeutique à l'aide des cannabinoïdes dans le cannabis. Donc voilà, il y a de l'espoir d'autres maladies éventuellement. Alors on va continuer à parler un peu du cannabis thérapeutique. On va parler un peu du Sativex. On va faire une petite pause musicale juste avant.
Un bob.
Et puis après, on va parler un peu du Sativex, et vous verrez, une fois de plus, on en a déjà parlé il y a quelques semaines, ben, on n'arrive pas à en avoir comme ça en France du Sativex, et pour des raisons là qui sont assez, administratives, bon bref. Allez, à tout de suite, un peu de musique.
Et on continue à remonter le temps avec Cannes, donc on part à la fin des années 70, groupe allemand du Krautrock. On écoute une vieillerie, c'est parti.
un grand morceau de Can, célèbre groupe allemand de rock progressif. Voilà, que comme on disait entre nous là, que si vous regardez l'émission Track sur Arte, des fois vous pouvez les voir. Il y avait une super émission il y a quelques mois où il parlait de justement de toute l'émergence des musiques modernes qu'il y avait eu dans les années 70 en Allemagne, notamment à l'initiative. Non, c'est pas vrai, je vais pas me rappeler de leur nom. J'ai un trou de mémoire. Comment il s'appelait ce groupe là qui a inventé la musique électro, un groupe allemand qui a fait Radioactivity,
Kraftwerk,
voilà. Et donc il parlait de Kraftwerk et il parlait de Cannes aussi. C'était super cette émission là sur Trax. Il y a eu quelques mois. C'était vraiment super intéressant, quoi. Voilà, bref. Donc Jeff, voilà, merci de ton témoignage à propos de Bedrocan. Bon, de toute façon, on n'a pas fini, on va continuer. Ouais. Donc là, avant de, voilà, on parlait un peu du Sativex. Alors, c'est un médicament à base de THC de cannabidiol qui n'est pas pour toi.
Non, et il paraît que c'est pas efficace. Franchement, et il paraît qu'il est trop cher, c'est pour ça qu'il commercialise pas.
Ouais, je vois que t'es bien informé, en effet. Ouais. Alors, en fait, c'est un médicament qui, à l'origine, est en fait uniquement destiné aux personnes souffrant de sclérose en plaques. Donc c'est un spray buccal, un spray sublingual qui soigne en fait la spasticité, c'est-à-dire les contractures musculaires dues à la sclérose en plaques.
Ben moi, c'est ce qui m'avait dit au début.
J'ai
eu un médecin, champion du monde, il faut que je le retrouve parce que je lui fasse la morale. Alors, un professeur de Lyon qui il m'a reçu.
Un grand professeur. Qui t'a reçu dans son bureau à l'hôpital ?
Non, dans son bureau.
En libéral, quoi.
Voilà, en libéral. Et ça a duré 2 minutes. Donc il a regardé ma radio, je lui ai expliqué où j'avais mal. Et il me fait, c'est sclérose en plaques et 80 € s'il vous plaît.
Lui, t'avais diagnostiqué directement sclérose en plaques.
Et 80 €.
Ah ouais.
Ça a duré 2 minutes et ni pourquoi, ni comment, voilà. Bonsoir.
Ok, ouais, c'est surprenant. Moi,
donc je m'étais un peu énervé, quoi. Parce que je trouvais que c'était des conneries, quoi. Et j'ai pas eu tort. Ça ressemble, mais c'est pas ça. Quoi.
Alors que quand même, quand t'es allé, est-ce que t'avais fait un IRM, le scanner et tout?
Ouais, c'était.
Et le diagnostic qui était posé, c'était bien une névralgie. Et lui, disait que c'était une sclérose en plaques.
Ah ouais.
D'accord. Ouais, et il t'avait parlé du Sativex?
Non, il avait rien. Lui, ce qui l'intéressait, c'était ses 80 €, quoi. Point. Donc,
ouais,
ça vient.
Bon, bref. Du coup, le Sativex en France. Eh bien, normalement, il y en a encore pas. Toujours pas. Ça aurait dû arriver au mois de janvier, donc il y a 6 mois. Mais le médicament est toujours pas disponible. Pourquoi ? Eh bien, en cause, en fait, des négociations sur le prix de vente qui patinent entre Almirol, qui est le laboratoire qui commercialise le Sativex, et les autorités sanitaires françaises. Donc en fait, qui c'est qui travaille au niveau du prix à mettre en vente quand le produit est mis en vente? C'est le comité économique des produits de santé, et donc considère que voilà, le prix est trop élevé, et donc pour l'instant en fait les autorités ne veulent pas l'acheter au labo, quoi, tout simplement. Alors, ça paraît assez hallucinant, surtout quand on regarde un peu ce qui se passe dans les autres pays, parce que bon, dans les autres pays, on en sera à peu près au même point, on se dirait bon. Mais non, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, et dans à peu près une quinzaine d'autres pays encore au monde, y a déjà bien belle lurette que le médicament est mis sur le marché, que les malades peuvent se procurer le traitement. Voilà, ça fait encore un peu tâche pour la France, hein, tout ça.
Faut déménager.
Ouais. Enfin, non, moi je suis pas d'accord. Il faut juste voter intelligemment.
Je vais me présenter.
Ben écoute, hein, ça sera peut-être moins pire que ceux qu'on a en ce moment avec nous, mais on se pose quand même vraiment des questions, quoi. C'est assez incroyable. Alors voilà, l'article, c'est un article du Nouvel Obs, temps réel. Nouvel Obs, la partie société. La seconde partie de l'article n'est pas inintéressante. On nous dit comme ça que en France, la plante était inscrite dans la pharmacopée jusqu'en 1953. par la suite en toute illégalité des malades de, du cancer, de la sclérose en plaques, du sida, n'ont jamais cessé de fumer du cannabis, de le manger, de l'inhaler, pour s'ouvrir l'appétit, réduire les nausées, apaiser les spasmes, mais surtout calmer certaines douleurs contre lesquelles les antidouleurs traditionnelles ne peuvent rien. Et ton témoignage ce soir yes. est vraiment là pour en attester.
Puisque, ils nous shootent les médecins, voilà, ils nous shootent antidépresseurs ou un petit peu de morphine, voilà, question ouais. que tu te taises.
Mais je vois pas, enfin moi je comprends pas, je vois pas la pertinence de l'antidépresseur dans ton cas par exemple.
Ouais, c'est ouais, quoi, terrible. Apparemment c'était dans la tête. Au début ils disent ouais. ça, hein, c'est dans la tête.
Enfin, en plus ce qui est intéressant c'est que là le médicament que tu as, enfin le Bedrocan, très faiblement dosé en THC, montre que c'est finalement pas un effet psychotrope qu'il te faut pour traiter cette douleur.
Parce qu'avant, c'était 17-18 joints par jour, moi. Pour faire tomber un peu la douleur. Donc maintenant, ouais, c'est beaucoup moins. Quoi. C'est...
Oui, alors qu'en plus, toi, t'appréciais pas forcément...
Ça me saoulait. Voilà, ouais. Tu passes tes journées à rouler, quoi.
Ouais. Alors donc je continue l'article parce que finalement c'est toujours ça nous intéresse toujours, hein, tu vas voir. Donc jusqu'ici la seule option dans les clous entre guillemets était de réclamer une ATU, une autorisation temporaire d'utilisation pour le Marinol, un traitement à base de THC de synthèse qu'il fallait importer. Mais la procédure compliquée n'était guère courante, à peine une centaine de personnes en France ont pris du Marinol ces dernières années. En plus, là, il nous parle du Cetix, puis là, il nous parle du Marinol, hein, mais c'est pas du tout fait pour les mêmes choses, en plus. Hein,
non. Je connais pas trop celui-là.
Le Marinol, c'est un médicament, par exemple, aux États-Unis, qui est particulièrement, qui est très bien utilisé, qui est très utilisé pour les enfants qui sont traités pour des cancers.
Épilepsie.
Pour des cancers.
Ok.
Pour des cancers. Et moi, j'ai une connaissance qui a été infirmière en chef d'un service de traitement du cancer dans un hôpital proche de San Francisco. Et en fait, voilà, le Marinol, ça marche super bien pour faire baisser les douleurs des enfants qui sont traités pour le cancer, quoi. Donc cool. Voilà, elle me parle de ça, elles utilisent ça depuis 20 ans.
Ils sont humains là-bas.
J'en sais rien. Je pense qu'ils sont juste un peu moins bloqués dans leur tête sur la question du cannabis. Donc je continue dans cet article. Le tournant a eu lieu à l'été 2013 grâce à un décret, un décret de Marie-Sainte Touraine à propos qui change la possibilité de utiliser du cannabis pour en faire des médicaments. Voilà.
Parce que Marie-Sainte Touraine, elle est pas médecin.
Je crois que si. Ou alors, en tout cas, elle a travaillé dans le milieu de la santé. Elle a été professionnelle dans le milieu de la santé. Ouais, il me semble que les médecins, moi, je mettrai pas ma main au feu, mais il me semble que si, voilà. Donc pour le Sativex, faut encore attendre. Il faut en tout cas qu'ils se mettent d'accord sur le prix du Sativex. En tout cas, visiblement, ça pose pas trop de. Alors je sais pas comment ça se passe dans les autres pays. Et peut-être qu'effectivement dans les autres pays, ils ont pas discuté le prix. Et le prix du Sativex, peut-être c'est hors de prix dans les autres pays, mais en plus il n'y a pas de système de remboursement, du coup ils s'en foutent. Et que là en France, vu qu'il y a ces négociations autour du prix, c'est peut-être pas si mauvais signe, hein. Ça veut peut-être dire qu'ils veulent tout simplement mettre sur le marché un produit qui soit pas trop inaccessible et qui puisse peut-être être un peu remboursé. Et que c'est vrai que si le produit doit être remboursé et qu'il vaut 300 ou 400 euros... c'est pas un bon calcul pour la sécurité sociale non plus. Il faut quand même être conscient de ça également. Voilà. Donc pour le Sativex, il faut attendre encore. On va rester un peu dans le domaine de la recherche ou du médical. On va parler un peu de cette petite étude canadienne. Le cannabis qui ferait prendre du poids, sauf chez les hommes qui fument également du tabac. Alors ça paraît assez incroyable. Et en tout cas, les données ne montrent pas les mêmes choses que selon qu'on est un homme ou une femme. Alors chez les femmes, l'interaction entre consommation de cannabis et cigarettes n'est par contre là pas significative. Et celles-ci prennent donc du poids qu'elles fument des cigarettes ou pas. Donc voilà.
Ça fait maigrir.
De quoi le tabac
le fumer.
Alors apparemment pas pour les femmes, hein. Tabac ou cannabis pour les femmes c'est pas significatif. Par contre pour les hommes, s'ils fument que du cannabis, ils grossissent. S'ils fument du cannabis mais qu'ils fument à côté des cigarettes et donc du tabac, ça jugule les effets, donc finalement ils ne grossissent pas. Mmh. Voilà, une étude canadienne, très sérieuse, hein, qui n'a pas été faite comme ça par-dessus la jambe. Le cannabis et la cigarette n'affectent pas certains circuits neurobiologiques régulant la faim de la même façon chez l'homme et chez la femme. Selon le docteur Jutras Aswad, des facteurs hormonaux pourraient aussi en être la cause. Et je pense que c'est pas très très juste que de parler que de problèmes hormonaux. Je pense qu'il y a aussi, malheureusement, comme bien souvent et comme c'est toujours le cas, des déterminismes sociaux qui interagissent avec les mécanismes biologiques ou hormonaux. Voilà, je pense que c'est un peu plutôt ça, mais bon. D'autres recherches se font, en tout cas en Amérique du Nord, ils font plein de recherches sur les cannabinoïdes, sur comment, comme ci, comme ça, si on fume pas, le poumon, machin, les fameuses recherches du professeur Tachkin aux États-Unis qui sont quasiment complètement inconnues en France, alors que c'est une étude énorme, enfin bon. Voilà. Il nous reste 2 minutes, 1 minute. Chasseur de son est-il arrivé? Je ne vois pas de chasseur de son. Si, si, il est là. Sinon, je lui aurais piqué un peu de temps d'antenne supplémentaire, mais il est là. Il arrive en levant les bras au ciel. Ah, je vais toucher de me dépêcher. Ça va être peut-être un peu dur de faire ça rapide, mais un article du Monde, écrit par un journaliste du Progrès, Richard Chitley, que voilà, je se plaisante souvent à son sujet en disant qu'il a son lit de camp au fond du bureau de la police à Lyon là, parce que quand il y a des articles de faits divers et tout, des articles souvent avec luxe de détails, mais on comprend bien que les détails, c'est pas lui qui les a observés, c'est plutôt la police qui lui donne les infos, donc c'est toujours un peu la version de la police. Bon, il est plus trop à Lyon, mais d'autres journalistes que je ne nommerai pas ont pris sa suite. Et en tout cas, voilà, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un article du Monde, voilà, un petit précis d'économie du trafic de drogue, publié le 29 juin. Un article, honnêtement, qui, en fait, n'a pas d'intérêt. Hormis cette fascination pour les journalistes, cette fascination qu'il y a à nous raconter comment en fait le trafic se met en place, s'opère dans un milieu de clandestinité en fait. Donc et en tout cas les journalistes adorent ça. Richard Chitley, je ne suis pas surpris qu'il ait aimé ça. Pas du tout, en tout cas, voilà, de quoi ça parle, d'un jeune qui a été arrêté un peu par hasard et qui, finalement, balance sur une organisation de trafic de stupéfiants à Grenoble. Qui raconte comment on organise le trafic, comment sont mises en place les planques, l'importation, l'exportation, les points de vente, un lieu de stockage chez une vieille dame insoupçonnable, prénommée Colette, au 11e étage d'une tour. Alors, ça, il trouve ça incroyable. Les planques en ville, à l'écart du quartier, du quartier grenoblois. Un appartement transformé en atelier de conditionnement de la drogue situé cour Albert Thomas et un box pour voiture loué sous un faux nom, un retraité près du lycée Vaucanson, employé comme homme à tout faire au taxiphone de Mistral, nom de la cité, durant 2 ans et rémunéré de quelques billets. Michael P., nom d'emprunt, aurait entendu beaucoup de choses depuis son poste d'observation. Et là encore, voilà, des guetteurs à la base payés 50 euros par jour, des vendeurs au salaire quotidien de 100 euros, des préparateurs pour envelopper le hashish dans du film alimentaire et l'herbe la beuh de la qualité supérieure, dont de l'aluminium, etc. etc. On nous parle également des voyages en vacances de la petite bande avec des Porsche, des belles motos, la surveillance de l'appartement, etc. etc. Puis une confrontation par visioconférence avec les avocats des différentes parties. Voilà. Je vous dis, franchement, un article qui n'est pas vraiment intéressant, mais qui, une fois, démontre à quel point les journalistes sont fascinés par tout ça. Et on se demande si, finalement, la légalisation, c'est un truc qui les intéresse, en tout cas, qui n'intéresse pas Monsieur Chitley, qui intéresse Michel Henry de Libération, qui nous parle quand même de choses un peu plus intéressantes. C'est un peu dommage quand même qu'au Monde, enfin bon, il n'y a pas que le Monde, on va pas fustiger le Monde non plus. Voilà, sinon dernière toute petite chose, j'ai déjà 3 minutes de retard, je vais me faire taper dessus. C'est une bonne nouvelle qui nous vient de Bobigny, ou en tout cas au niveau du tribunal, on essaie de trouver des alternatives à la prison pour des toxicomanes au lourd passé et qui sont impliqués dans des délits pas trop graves. Essayer de voilà de les accompagner, de les épauler très étroitement pour les faire les aider à peut-être quitter, se sevrer, trouver du boulot et en tout cas éviter des mises en prison. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Donc voilà, c'est la fin de Cannabis Circus. Merci Jeff d'être venu nous
merci à toi.
Parler de ouais, ben merci à toi surtout d'être venu nous parler de ton expérience. On reparlera un petit peu de tout ça forcément dans les prochaines semaines et on va mettre quelques petites infos sur le site du Cirque Lyon éventuellement pour permettre à des gens qui seraient malades de pouvoir trouver les coordonnées de ce médecin ou de cette pharmacie en Allemagne, en Hollande pardon.
Yes.
Voilà, c'était l'émission du Cirque Lyon, BP 93 043 69 605, Villeurbanne CEDEX. Vous pouvez nous contacter par téléphone 06 11 53 10 07, nous envoyer un petit mail cirque-lyon@no-log.org et notre site internet www.cirque-lyon.fr. C'est la fin de Cannabis Circus ce soir. On n'est vraiment pas sûr de faire l'émission lundi prochain, lundi 13 juillet, mais c'est pas grave, on sera là le lundi 20 juillet comme d'habitude. Et maintenant c'est Chasseur de Son. Au revoir et merci.
Bye.
Tous les lundis.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.